From the conference center at Temple Square.
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 182e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Et la musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Henry
B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session de la 182e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos cordiales salutations aux membres et aux amis de l'Église de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, accompagné à l'orgue par Bonnie Goodliffe et Linda Margett. Le chœur ouvrira la session en chantant « Du grand millénium ». Ensuite, Octaviano Tenorio, qui a été relevé lors de cette conférence de son appel au sein des 70, fera la prière d'ouverture. Le chœur chantera ensuite « La prière est comme un phare ». Après ce chant, nous aurons le plaisir d'entendre Richard G. Scott et Robert D. Hales du Collège des 12 apôtres. Ils seront suivis de Russell T. Oskutorp, président général de l'école du dimanche.
Thank you. Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour l'occasion que nous avons d'être ici présents pour écouter les messages qui ont été préparés par tes serviteurs à cette occasion. Nous prions que tes bénédictions soient avec chacun de ceux qui participent à cette session et que nous puissions être disposés à renforcer nos témoignages et continuer à aller de l'avant, à suivre ton Fils Jésus-Christ avec le désir d'endurer jusqu'à la fin. Puissions-nous apprendre à t'adorer, Père, au nom de Jésus-Christ, avec des mains propres et des cœurs purs, et que nous puissions rechercher l'occasion d'entrer dans ton Saint-Temple aussi souvent que possible et faire des ordonnances sacrées avec toi, afin que tu puisses nous autoriser à retourner en ta présence. Bénis notre prophète bien-aimé, Thomas Monson. Donne-lui la santé, l'inspiration de continuer à nous guider dans nos vies. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
What does it mean to be a Christian?
Que signifie être chrétien? Le chrétien a foi au Seigneur Jésus-Christ. Il a la foi qu'il est le Fils littéral de Dieu, qu'il a été envoyé par son Père pour souffrir pour nos péchés, dans un acte d'amour suprême que nous connaissons sous le nom d'expiation. Le chrétien croit que par la grâce de Dieu, le Père, et de son Fils Jésus-Christ, nous pouvons nous repentir, pardonner aux autres, respecter les commandements et hériter de la vie éternelle. Le mot « chrétien » indique que nous prenons sur nous le nom du Christ. Pour ce faire, nous nous faisons baptiser et nous recevons le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité. Le chrétien sait qu'à toutes les époques, les prophètes de Dieu ont toujours témoigné de Jésus-Christ. Ce même Jésus, accompagné par notre Père Céleste, apparu en 1820 à Joseph Smith, le prophète, et rétablit l'Évangile et l'organisation de son Église originelle. Grâce aux Écritures et aux témoignages de Joseph Smith, nous savons que Dieu, notre Père éternel, a un corps de chair et d'os glorifié et parfait. Jésus-Christ est son Fils unique, engendré dans la chair. Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit, dont l'œuvre est de témoigner du Père et du Fils. La divinité est constituée de trois êtres séparés et distincts, unis dans le même dessein. Avec ces points de doctrine comme fondement de notre foi, peut-on douter ou contester que nous soyons chrétiens? Cependant, pour tout chrétien demeure une simple question. Quel genre de chrétien sommes-nous? En d'autres termes, où en sommes-nous dans notre quête pour suivre le Christ? Examinons le cas de deux disciples chrétiens. Comme ils marchaient le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons l'occasion d'agir sur le champ, immédiatement et de façon décisive, tout comme Pierre et André. Ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Nous aussi, nous sommes appelés à laisser nos filets, à rejeter nos us, coutumes et traditions. Nous aussi sommes appelés à abandonner nos péchés. Lorsque Jésus eut appelé la foule à lui, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Refuser toute conduite impie est le commencement du repentir, qui produit un grand changement de cœur, qui fait qu'on n'a plus de disposition à faire le mal. Ce changement, que l'on appelle la conversion, n'est possible que grâce au Sauveur. Jésus a promis, « Si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. » Et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Car s'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. Quand nous devenons nouveaux en Christ, notre nature même change et nous ne voulons plus revenir à nos anciennes habitudes. Cependant, les chrétiens fidèles connaîtront toujours des difficultés et des déceptions. Lorsqu'arrivent ces épreuves qui nous raffinent, nous pouvons être tentés de revenir à nos anciennes habitudes. Après sa crucifixion, le Sauveur apparut aux femmes et leur dit que les frères le trouveraient en Galilée. Lorsque Pierre, le premier apôtre, revint en Galilée, il retourna à ce qu'il connaissait, dans ce qu'il se sentait à l'aise de faire. « Je vais pêcher », expliqua-t-il, et il emmena plusieurs disciples avec lui. En fait, Pierre et les autres pêchèrent toute la nuit, sans attraper de poisson. Le lendemain matin, Jésus apparut sur le rivage et leur cria sur l'eau, « Jetez le filet du côté droit ». Jean reconnut immédiatement la voix du Sauveur, et Pierre se jeta tout de suite à l'eau et nagea vers le rivage. Les disciples qui étaient restés dans le bateau suivirent ses instructions et découvrirent rapidement que leur filet s'était miraculeusement rempli, au point de déborder. Vous, chrétiens qui êtes retournés à vos anciennes habitudes éloignées de la foi, voyez l'exemple fidèle de Pierre. Ne tardez pas. Venez entendre et reconnaître la voix du Maître qui appelle. Puis revenez immédiatement à lui pour recevoir encore une fois ses bénédictions en abondance. Lorsque les frères retournèrent sur le rivage, ils y trouvèrent un festin de poissons et de pain. Le Seigneur les invita disant, « Venez, mangez. » Alors qu'il les nourrissait, il demanda trois fois à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Comme Pierre lui exprimait son amour, le Sauveur le supplia, « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » C'est l'appel que le Christ lance à tous les chrétiens d'aujourd'hui, « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » Fais connaître mon évangile aux jeunes et aux moins jeunes. Édifie-les, bénis-les, réconforte-les, encourage-les et édifie-les, surtout ceux qui pensent et croient différemment de nous. Nous paissons ces agneaux chez nous, par notre façon de vivre l'évangile, en suivant les commandements, en priant, en étudiant les Écritures et en imitant son amour. Nous pissons ces brebis dans l'Église, en servant dans les collèges de la prêtrise et les organisations auxiliaires. Et nous pissons ces brebis dans le monde en étant des voisins chrétiens, en pratiquant la religion pure qui consiste à visiter et à servir les veuves, les orphelins, les pauvres et tous les nécessiteux. Pour beaucoup, l'appel à être chrétien peut sembler exigeant et même écrasant. Mais nous ne devons pas avoir peur ou ne pas nous sentir à la hauteur. Le Sauveur a promis qu'il nous rendrait capables de faire son œuvre. « Suivez-moi, a-t-il dit, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Quand nous le suivons, il nous accorde des dons, des talents et la force de faire sa volonté, nous permettant de sortir de notre zone de confort pour accomplir des choses que nous n'avons jamais faites auparavant. Cela peut signifier parler de l'Évangile à ses voisins, sauver les personnes spirituellement perdues, accomplir une mission à plein temps, travailler au temple, élever un enfant ayant des besoins particuliers, aimer le fils prodigue, soutenir un conjoint malade, supporter les incompréhensions ou éprouver des afflictions. Cela signifie nous préparer à répondre à son appel en disant « J'irai où tu veux que je sois, Seigneur. Ce que tu voudras, je serai. » Pour être celui que notre Père Céleste veut que nous soyons, nous suivons Jésus-Christ. Je témoigne qu'il nous appelle continuellement à le suivre. Si vous êtes seulement en train d'apprendre ce qu'est l'engagement chrétien des saints des derniers jours, ou si vous n'êtes pas pleinement pratiquant dans l'Église et que vous désiriez le suivre de nouveau, ne craignez pas. Les premiers disciples du Sauveur étaient tous de nouveaux membres de l'Église, nouvellement convertis à son évangile. Jésus a instruit chacun d'eux avec patience. Il les a aidés à s'acquitter de leurs responsabilités. Il les a appelés ses amis et a donné sa vie pour eux. Et il a déjà fait la même chose pour vous et moi. Je témoigne que grâce à son amour et à sa grâce infinie, nous pouvons devenir des chrétiens plus chrétiens. Examinez les qualités chrétiennes suivantes. Où en sommes-nous dans nos efforts pour les renforcer chez nous? Amour chrétien. Le Sauveur estimait tout le monde, bon et compatissant envers tous. Il laissait les 99 brebis pour rechercher la seule qui était perdue, car même les cheveux de notre tête sont comptés pour lui. Foi chrétienne. En dépit des tentations, des épreuves et des persécutions, le Sauveur avait confiance en notre Père Céleste et avait choisi d'être fidèle et obéissant à ses commandements. Sacrifice chrétien. Toute sa vie, il a donné de son temps, de son énergie, et à la fin, par l'expiation, le Sauveur s'est donné lui-même, afin que tous les enfants de Dieu puissent ressusciter et qu'ils aient la possibilité d'hériter la vie éternelle. Charité chrétienne. Comme le bon Samaritain, le Sauveur était toujours prêt à aider, aimer et édifier les gens autour de lui, quelle que soit leur culture, leur croyance ou leur situation. Service chrétien. Que ce soit en tirant l'eau d'un puits, en préparant un plat de poisson ou en lavant des pieds poussiéreux, le Sauveur a passé sa vie à servir autrui, à relever ceux qui étaient là et à raffermir ceux qui étaient faibles. Patience chrétienne. Dans son chagrin et ses souffrances, le Sauveur s'est reposé sur son Père, plein de patience à notre égard. Il attend que nous rentrions en nous-mêmes et que nous revenions au foyer. Paix chrétienne. Pendant tout son ministère, il a exhorté à la compréhension et a poussé à la paix. Il a enseigné, en particulier parmi ses disciples, que les chrétiens ne peuvent pas se disputer avec d'autres chrétiens, nonobstant leurs différences. Pardon, chrétien. Il nous a enseigné à bénir ceux qui nous maudissent. Et il nous a montré la voie en priant pour que ceux qui le crucifiaient reçoivent le pardon. Conversion chrétienne. Comme Pierre et André, beaucoup reconnaissent la vérité de l'Évangile dès qu'ils l'entendent. Ils sont tout de suite convertis. Pour d'autres, cela peut être plus long. Dans une révélation donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith, le Sauveur enseigne « Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière, et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Jésus-Christ est la lumière et le Rédempteur du monde, l'Esprit de vérité. » Persévérance chrétienne jusqu'à la fin. Pendant toute sa vie, le Sauveur n'a jamais cessé de faire la volonté de son Père, mais a continué dans la justice, la bonté, la miséricorde et la vérité jusqu'à la fin de sa vie mortelle. Voilà quelques traits de caractère des personnes qui écoutent et suivent la voix du Sauveur. Moi qui suis l'un de ses témoins spéciaux sur la terre, je donne mon témoignage de chrétien qu'il vous lance aujourd'hui cet appel. Viens et suis-moi. Venez emprunter le chemin qui mène au bonheur éternel, à la joie et à la vie éternelle dans le royaume de notre Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Merci, frère Hales. Nous vous aimons. Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, un point de doctrine sublime concernant l'ordonnance sacrée du baptême. Cette lumière est venue alors que d'autres églises chrétiennes enseignaient que la mort déterminait de façon irrévocable la destinée éternelle de l'âme. Elles enseignaient que les personnes qui avaient reçu le baptême étaient récompensées par une joie éternelle, tandis que toutes les autres devaient subir un tourment éternel, sans espoir de rédemption. La révélation du Seigneur indiquant que le baptême pouvait être accompli par procuration pour les morts, en vertu de l'autorité appropriée de la prêtrise, préservait la justice de sa déclaration « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ». Le baptême par procuration peut, avec miséricorde, donner accès à cette ordonnance essentielle à toutes les personnes décédées qui sont dignes et qui ne l'ont pas reçue dans la condition mortelle. Ce merveilleux enseignement est un témoignage supplémentaire de la nature universelle de l'expiation de Jésus-Christ. Il a permis que le salut soit accessible à toute âme qui se repent. Son expiation a vaincu la mort. Et il permet aux personnes décédées qui sont dignes de recevoir toutes les ordonnances du salut par procuration. Dans une lettre écrite il y a plus de 150 ans, Joseph Smith a déclaré « Les saints ont la possibilité d'être baptisés pour leurs proches qui sont décédés, qui ont reçu l'Évangile dans le monde spirituel, par ceux qui ont été désignés pour le leur prêcher. Les saints qui négligent cette possibilité en faveur de leur parenté décédée le font au péril de leur propre salut. Le prophète Élie a conféré les clés de l'œuvre par procuration à Joseph Smith dans le temple de Kirtland. Pour accomplir la promesse du Seigneur, il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites au Père. Et le cœur des enfants se tournera vers leur Père. La compréhension de l'œuvre du Temple et de l'histoire familiale qui la soutient et les dispositions les concernant sont venues par d'autres révélations données à Joseph Smith et aux prophètes qui lui ont succédé. Tous les prophètes depuis Joseph Smith ont souligné le besoin crucial d'accomplir toutes les ordonnances pour nous-mêmes et pour nos ancêtres décédés. L'œuvre du Temple et l'histoire familiale sont une seule œuvre en deux parties. Elles sont intimement liées, comme l'ordonnance du baptême et le don du Saint-Esprit. Certains membres ne peuvent peut-être pas accomplir ces deux œuvres pour des raisons de santé ou d'éloignement du temple. Howard W. Hunter a enseigné « Nous devons accomplir dans le temple les ordonnances de la prêtrise nécessaires à notre propre salut. Nous devons ensuite les accomplir pour les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'accepter l'Évangile de leur vivant. On accomplit les ordonnances pour les autres en deux étapes. Premièrement, en faisant des recherches généalogiques pour identifier nos ancêtres. Deuxièmement, en accomplissant les ordonnances du Temple pour leur donner les mêmes possibilités que celles offertes aux vivants. Toutefois, de nombreux membres de l'Église sont limités dans leur possibilité de se rendre au Temple. Ils font de leur mieux. Ils font leur recherche généalogique et font accomplir les ordonnances du Temple par d'autres. Inversement, il y a des membres qui effectuent les ordonnances du Temple, mais qui ne font pas de recherche généalogique sur leur propre lignée familiale. Bien qu'ils accomplissent un service divin en aidant autrui, ils se privent d'une bénédiction en ne recherchant pas leurs ancêtres décédés, comme le commandement divin leur en a été donné par les prophètes des derniers jours. J'ai appris que les gens qui se livrent aux recherches généalogiques puis accomplissent les ordonnances du temple pour les personnes dont ils ont trouvé les noms connaissent la joie supplémentaire de recevoir les deux moitiés de la bénédiction. Notre Père Céleste veut que chacun de nous reçoive les deux parties de la bénédiction de cette œuvre cruciale accomplie par procuration. Il a inspiré d'autres personnes à nous montrer comment les recevoir. C'est à vous et à moi qu'il appartient d'obtenir ces bénédictions. Toute œuvre que vous accomplirez dans le temple occupera utilement votre temps. Mais les ordonnances reçues par procuration pour l'un de vos ancêtres donneront au temps passé dans le temple un caractère plus sacré et vous recevrez des bénédictions encore plus grandes. La première présidence a déclaré « Notre responsabilité la plus importante est de rechercher et de trouver nos propres ancêtres. » Vous, les jeunes, voulez-vous connaître un moyen sûr d'éliminer l'influence de l'adversaire dans votre vie? Plongez-vous dans la recherche de vos ancêtres. Préparez leurs noms pour les ordonnances sacrées accomplies par procuration dans le temple. Puis, allez au temple. Allez au temple pour recevoir en leur faveur les ordonnances du baptême et du don du Saint-Esprit. Quand vous serez plus âgé, vous pourrez aussi prendre part à l'accomplissement des autres ordonnances. Je ne connais pas de plus grande protection contre l'influence de l'adversaire. Dans la mission de Rostov en Russie, les jeunes ont été invités à indexer chacun 2000 noms, puis à préparer au moins un nom de leur propre famille pour les ordonnances du temple. Ceux qui ont atteint ce but ont été invités à faire le long voyage pour se rendre au nouveau temple de Kiev, en Ukraine. Un de nos jeunes gens a raconté ce qu'il a vécu. Je passais beaucoup de temps à jouer à des jeux sur l'ordinateur. Quand j'ai commencé à travailler à l'indexation, je n'avais plus de temps, le temps de jouer à des jeux. J'ai d'abord pensé, « Oh non, c'est pas possible. » Quand ce projet a pris fin, j'avais même perdu le goût de jouer. L'œuvre généalogique est une chose que nous pouvons faire ici-bas et qui demeurera dans les cieux. Beaucoup de saints fidèles ont fait le travail de recherche de leurs ancêtres et utilisent l'option réservée de Family Search pour que les ordonnances soient accomplies par procuration par les membres de leur famille. La possibilité de réserver les noms a pour but de permettre aux personnes d'accomplir les ordonnances pour leurs ancêtres directs et collatéraux en leur laissant un temps raisonnable pour le faire. Il y a actuellement 12 millions de noms et des millions d'ordonnances correspondantes qui sont réservées. Beaucoup de noms sont réservés depuis des années. Les ancêtres qui ont été trouvés sont sans doute impatients et enthousiastes quand leurs noms sont prêts pour les ordonnances. Cependant, ils ne doivent pas être très heureux quand ils doivent continuer d'attendre que leurs ordonnances soient accomplies. Nous vous recommandons, à vous qui avez une grande réserve de noms, de les partager afin que des membres de votre famille élargie ou de votre paroisse, de votre pieu, puissent vous aider à accomplir ce travail. Vous pouvez le faire en distribuant des cartes d'ordonnance aux membres de la paroisse et du pieu qui veulent aider, ou en utilisant le système informatique Family Search pour envoyer les noms directement au temple. C'est ce que fait Cindy Blevins de Casper, au Wyoming, depuis des années. Sœur Blevins a été baptisée quand elle était adolescente et est la seule membre de sa famille à s'être jointe à l'Église. Elle a accompli un travail gigantesque de recherche généalogique. Mais il y a beaucoup trop de noms pour qu'elle et sa famille immédiate s'occupent de tous. Par conséquent, elle a envoyé les noms au temple où, dit-elle, les ordonnances sont souvent accomplies dans les semaines qui suivent, souvent dans l'un des deux temples les plus proches de chez elle. Elle dit qu'elle aime à penser que des amis et des voisins de sa paroisse et de son pieu sont peut-être au nombre de ceux qui aident à accomplir l'œuvre pour ses ancêtres. Elle est reconnaissante qu'ils le fassent. Ma femme bien-aimée, Janine, aimait rechercher son histoire familiale. Quand nos enfants étaient jeunes, elle échangeait des heures de babysitting avec des amis pour pouvoir avoir quelques heures toutes les quelques semaines pour rechercher nos ancêtres. C'était plutôt ma famille, ma lignée. Après que le plus jeune de nos enfants a quitté la maison, elle a noté ce qui suit dans son journal personnel. Je viens de prendre une décision et j'ai envie de me lever pour le proclamer. Ce qui était la chambre de Mike est devenu mon bureau de généalogie. Elle est bien équipée pour organiser les annales et y travailler. Je vais maintenant consacrer ma vie aux recherches vitales sur ma famille et à l'envoi de noms au temple. Je suis très enthousiaste et impatiente de commencer. Je cite un autre passage de son journal. Le miracle s'est produit pour moi dans le bureau de l'histoire familiale de Mel Olsen, qui m'a présenté un document imprimé contenant la généalogie de tous mes ancêtres connus, tiré de la mise à jour des registres informatisés d'Ancestral File, fichier des ancêtres, envoyé à la société généalogique. Ils provenaient pour la plupart des registres du programme des quatre générations lancé par l'Église il y a de nombreuses années. J'avais été accablé en pensant à la tâche énorme qui m'attendait de rassembler tous les enregistrements issus de la recherche de mes ancêtres à partir des groupements de familles pour les saisir tous dans l'ordinateur pour la première grande publication informatisée du fichier des ancêtres. Ils étaient tous là, beaux, organisés, imprimés et posés sur le bureau devant moi. J'étais si émerveillé et si décontenancé que je suis resté là, stupéfié, et que je me suis mis à pleurer de joie. Pour quelqu'un qui a obstinément et méticuleusement mené des recherches pendant 30 ans, l'informatisation de tous ces documents est vraiment enthousiasmante. Et quand je pense aux centaines de milliers de gens qui sont ou seront bientôt occupés à saisir en quantité énorme des registres de recensement et des disquettes de recherche privée, je suis très enthousiaste. C'est vraiment l'œuvre du Seigneur et il la dirige. Je t'aime, Janine. J'ai suffisamment goûté aux fruits de cette œuvre sublime pour savoir que les clés des Kelly a rétablies en les conférant à Joseph Smith permettent à nos cœurs d'être unis et à chacun d'entre nous d'être lié à ceux de nos ancêtres qui attendent notre aide. Par nos efforts, dans les saints temples ici-bas, en vertu de l'autorité déléguée par le Sauveur, nos ancêtres reçoivent les ordonnances salvatrices qui leur permettent de connaître un bonheur éternel. Par le passé, des personnes motivées par une conviction profonde de la sainteté de l'œuvre ont vaillamment relevé un défi comparable à celui de moissonner tout seul tout le blé du Nebraska. À présent, de nombreuses et puissantes moissonneuses sont à l'œuvre. Ensemble, nous pouvons accomplir le travail requis et nous le ferons. Je témoigne que l'esprit d'Élie touche le cœur de beaucoup des enfants de notre Père dans le monde entier, ce qui donne à l'œuvre pour les morts une accélération sans précédent. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous prié à propos de l'œuvre pour vos propres ancêtres? Mettez de côté ceux qui, dans votre vie, n'ont pas vraiment d'importance. Décidez de faire quelque chose qui aura des conséquences éternelles. Peut-être avez-vous été poussé à rechercher des ancêtres, mais ne vous sentez-vous pas l'âme d'un généalogiste? Ne voyez-vous pas que vous n'avez plus besoin d'en être un? Tout commence par l'amour et le désir sincère d'aider les personnes qui, de l'autre côté du voile, ne peuvent pas faire les choses elles-mêmes. Renseignez-vous, il y a quelqu'un près de chez vous qui peut vous aider à réussir. Cette œuvre est une œuvre spirituelle, un gigantesque effort de coopération des deux côtés du voile, où l'aide va dans les deux sens. Où que vous soyez dans le monde, à l'aide de la prière, avec de la foi, de la détermination, de la diligence et quelques sacrifices, vous pouvez apporter une aide considérable. Commencez maintenant. Je vous promets que le Seigneur vous aidera à trouver un moyen et vous vous sentirez incroyablement bien. Au nom de Jésus-Christ, amen.
L'été dernier, j'ai écrit un petit article publié dans le Liaona. Mon fils m'a envoyé un message électronique. « Papa, tu pourrais peut-être nous prévenir quand l'un de tes articles est publié. » J'ai répondu « Je voulais juste vérifier que vous lisiez les magazines de l'Église. » Il m'a expliqué que sa fille de 10 ans avait réussi le test. Il a ajouté « Elle a sorti le Liaona de la boîte aux lettres et rentrée à la maison et l'a lu. » Puis elle est montée dans notre chambre et nous a montré ton article. Ma petite fille lit le Liaona parce qu'elle veut apprendre. Elle agit par elle-même en exerçant son libre arbitre. Récemment, la première présidence a approuvé une nouvelle documentation pour l'apprentissage des jeunes qui les aidera dans leur désir inné d'apprendre, de vivre et de faire connaître l'Évangile. Cette nouvelle documentation est maintenant disponible et consultable en ligne. En janvier, nous commencerons à l'utiliser dans les salles de classe. Le Sauveur a enseigné que le libre arbitre de l'élève était capital. Il nous a montré non seulement ce qu'il faut enseigner, mais aussi comment l'enseigner. Il a mis l'accent sur les besoins de l'élève. Il aidait chacun à découvrir la vérité par lui-même. Il écoutait toujours les questions. Cette nouvelle documentation d'apprentissage nous aidera tous à apprendre et à enseigner à la manière du Sauveur dans nos foyers et nos classes. Ce faisant, nous répondrons à son invitation « Viens et suis-moi », comme Elder Hales vient de nous l'enseigner. Quand cette nouvelle documentation était au stade de l'élaboration, j'ai vu des dirigeants et des instructeurs d'auxiliaires et du séminaire tenir conseil avec les parents pour pouvoir répondre aux besoins de leurs élèves. J'ai vu des jeunes filles dans leur classe, des jeunes gens dans leur collège de prêtrise d'Aaron et des jeunes à l'école du dimanche apprendre à exercer leur libre arbitre et à agir par eux-mêmes. Une instructrice de l'école du dimanche pour les jeunes s'est demandé comment aider deux jeunes gens autistes à exercer leur libre arbitre et à agir par eux-mêmes. Quand elle a invité les élèves de sa classe à parler de ce qu'ils apprenaient, elle craignait que ces deux jeunes gens refusent son invitation, mais cela n'a pas été le cas. L'un d'eux s'est levé pour enseigner ce qu'il avait appris, puis a invité son camarade autiste à l'aider. Quand le premier a commencé à avoir des difficultés, son camarade est resté près de lui et lui a soufflé à l'oreille pour qu'il y arrive. Ce jour-là, ils enseignaient tous les deux. Ils enseignaient ce que le Sauveur enseignait, mais ils enseignaient aussi comment le Sauveur enseignait. Quand il enseignait, le Sauveur montrait de l'amour pour celui qui l'instruisait. Tout tout comme ce garçon l'a fait pour son camarade. Quand nous apprenons et enseignons sa parole à sa manière, nous acceptons son invitation « Viens et suis-moi ». Nous le suivons un pas à la fois. Chaque pas nous rapproche du Sauveur. Nous changeons. Le Seigneur savait que la progression spirituelle ne se produirait pas d'un seul coup. Elle se produit petit à petit. Chaque fois que nous acceptons son invitation et choisissons de le suivre, nous progressons sur le chemin de la conversion totale. La conversion est le but de tout apprentissage et de tout enseignement de l'Évangile. La conversion n'est pas un événement unique. Devenir davantage semblable au Sauveur est la quête de toute une vie. Dallin H. Oaks nous a rappelé que savoir ne suffit pas. Pour être converti, il faut agir et devenir. Ainsi, apprendre pour être converti est un processus continu dans lequel on sait, agit et devient. De même, enseigner pour convertir requiert des points de doctrine clés, des invitations à agir et des promesses de bénédiction. Quand nous enseignons la vraie doctrine, nous aidons l'élève à savoir. Quand nous invitons les autres à agir, nous les aidons à agir ou à vivre la doctrine. Et quand les bénédictions que le Seigneur a promises arrivent, nous avons changé. Comme Alma, nous pouvons devenir de nouvelles créatures. La nouvelle documentation pour l'apprentissage des jeunes a un objectif central, aider les jeunes à se convertir à l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai récemment vu un jeune homme d'une classe de l'école du dimanche pour les jeunes découvrir la vérité par lui-même. Quand j'ai vu qu'il avait des difficultés à établir le rapport entre l'expiation et sa vie personnelle, je lui ai demandé s'il s'était déjà senti pardonné. Il a répondu « Oui, comme cette fois où j'ai cassé le nez d'un garçon en jouant au foot, je me sentais mal. Je me demandais que faire pour faire mieux. » Alors je suis allé chez lui et lui ai demandé de me pardonner. Mais je savais que je devais faire plus. Alors j'ai prié et j'ai senti que mon Père Céleste m'avait aussi pardonné. C'est ce que l'expiation signifie pour moi. Ce jour-là, quand il a raconté cette expérience en classe, il a lu Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Puis a témoigné du pouvoir de l'expiation. Pour ce jeune homme, ce point de doctrine n'était plus un concept abstrait. Il était devenu partie intégrante de sa vie, parce qu'il s'était lui-même posé la question et avait ensuite exercé son libre arbitre pour agir. Ce jeune homme approfondissait sa conversion, tout comme ses camarades. Il se concentrait sur un point de doctrine clé en étudiant les Écritures. Il rattachait ces mots sacrés à leur vie et témoignait des bénédictions qu'ils avaient reçues du fait qu'ils vivaient la doctrine. Quand nous enseignons l'Évangile de Jésus-Christ, nous nous appuyons sur les Écritures et les paroles des prophètes modernes. Nous utilisons les textes sacrés pour aider à fortifier la foi, à édifier le témoignage et à aider chacun à devenir pleinement converti. La nouvelle documentation pour l'apprentissage des jeunes aidera tous ceux qui l'utiliseront à comprendre et à vivre la parole de Dieu. Quand j'instruisais les saints du Costa Rica, j'ai montré un exemplaire de l'enseignement « Pas de plus grand appel » et j'ai demandé « Combien d'entre vous ont un exemplaire de ce manuel ?» Presque tout le monde a levé la main. En souriant, j'ai ajusté « Et je parie que vous le lisez chaque jour ?» À ma surprise, une sœur du premier rang a levé la main indiquant qu'elle le lisait chaque jour. Je lui ai demandé de venir sur l'estrade et de nous expliquer. Elle a répondu « Je lis le livre de Mormon chaque matin, puis je lis quelque chose de l'enseignement, pas de plus grand appel, pour pouvoir enseigner de la meilleure manière à mes enfants ce que j'ai appris. » Elle voulait apprendre et enseigner sa parole à la manière du Christ. Alors elle étudiait sa parole dans les Écritures, puis elle étudiait comment enseigner sa parole pour que ses enfants soient convertis. Le procédé qu'elle a adopté pour apprendre et enseigner l'Évangile n'est pas apparu d'un seul coup. Elle a pris la décision d'agir. Et plus elle le faisait, et plus elle faisait ce qu'elle savait devoir faire, plus le Seigneur la fortifiait pour qu'elle suive son chemin. Parfois, le chemin de la conversion peut être long et difficile. Mon beau-frère a été non-pratiquant dans l'Église pendant 50 ans. Ce n'est qu'à la soixantaine qu'il a commencé à accepter l'invitation du Sauveur à revenir. Beaucoup l'ont aidé tout au long du chemin. L'un des instructeurs au foyer lui a envoyé chaque mois une carte postale pendant 22 ans. Mais c'était à lui de décider de revenir. Il lui fallait exercer son libre arbitre. Il lui fallait faire le premier pas, puis un autre, puis un autre. Il est maintenant scellé à sa femme et à un appel dans un épiscopat. Récemment, nous lui avons montré les vidéos qui ont été faites pour aider les dirigeants et les instructeurs à utiliser la nouvelle documentation d'apprentissage. Après les avoir regardées, mon beau-frère s'est renversé sur son fauteuil et a dit « Si j'avais eu cela quand j'étais jeune, je ne me serais peut-être pas éloigné. » Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un jeune homme qui avait des difficultés. Je lui ai demandé s'il était membre de l'Église. Il m'a dit qu'il était agnostique, mais que précédemment dans sa vie, il avait eu des contacts avec l'Église. Quand je lui ai parlé de mon appel à l'école du dimanche et que j'ai dit que je prendrais la parole à la conférence générale, il m'a dit « Si vous parlez, je regarderai cette session-là. » J'espère qu'il regarde aujourd'hui. Je sais que s'il regarde, il aura appris quelque chose. Ce centre de conférence est un endroit unique pour apprendre et enseigner en vue de la conversion. Quand nous vivons les principes enseignés par les hommes que nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs, nous apprenons à la manière du Sauveur. Nous faisons un pas de plus vers lui. À la fin de cette conférence, j'invite toutes les personnes qui m'écoutent à faire ce pas. Comme les Néphites d'autrefois, nous pouvons rentrer chez nous et méditer les choses qui ont été dites et demander au Père, en son nom, de pouvoir comprendre. Nous voulons que tous les jeunes comprennent. Nous voulons qu'ils apprennent, enseignent et vivent tous les jours l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur attend de tous ses enfants. Que vous soyez un enfant, un jeune ou un adulte, je vous invite à aller au Christ et à suivre ses pas. Venez et suivez ses pas. Je témoigne qu'à chaque pas que nous ferons, le Seigneur nous fortifiera. Il nous aidera à faire le reste du chemin. Quand nous rencontrerons des obstacles, nous continuerons à avancer. Quand le doute viendra, nous continuerons à avancer. Nous ne reviendrons jamais en arrière. Nous ne tomberons jamais. Je témoigne que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ vivent. Je témoigne que le Sauveur continue à nous faire signe, tout comme il l'a fait autrefois, de venir à lui. Nous pouvons tous accepter son invitation. Nous pouvons tous apprendre, enseigner et vivre sa parole à sa manière, en faisant un pas de plus vers le Sauveur. Si nous le faisons, nous deviendrons vraiment convertis. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Hosanna au grand roi ». Après le cantique, nous entendrons Marcus B. Nash, Daniel L. Johnson et Don R. Clark des 70. Ils seront suivis de David A. Bednar du Collège des 12 apôtres. Vous assistez à la 182e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Oh,
Not long ago, several... Il y a quelque temps, avec plusieurs membres de la famille Nash, nous avons fait l'ascension du mont Huayna Picchu, au pic proche des antiques ruines incas du Machu Picchu, dans les montagnes du Pérou. La pente est très abrupte, mais la vue et les escalades cascades à pic sont à couper le souffle. Malheureusement, plusieurs randonneurs ont perdu la vie en tombant de cette piste étroite et escarpée. Pour éviter de telles tragédies, depuis, de forts câbles ont été installés, fixés dans la roche solide tout le long du flanc du Huayna Picchu. Nous nous sommes accrochés à ces câbles en grimpant et ils nous ont permis d'atteindre le sommet en toute sécurité. La vue était majestueuse. Tout comme le chemin de Huayna Picchu, notre voyage dans la condition mortelle est une escalade difficile et escarpée, et il nous faut l'aide de notre Père Céleste pour y arriver. C'est pour cette raison qu'il nous a donné les principes et ordonnances de l'Évangile, pour nous amener au Sauveur et à son pouvoir salvateur. Le premier de ces principes, la foi au Seigneur Jésus-Christ, est semblable au câble du Huayna Picchu. Si elle est fermement accrochée au roc de notre Rédempteur, la foi nous aidera à escalader en toute sécurité le chemin de l'Évangile, à surmonter chaque épreuve de la mortalité et à retourner en la présence majestueuse de notre Père Céleste. Toutes choses s'accomplissent par la foi. La foi est un principe d'action et de pouvoir. Ce n'est pas avoir une connaissance parfaite des choses. C'est pourquoi, si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies. C'est une assurance issue de la connaissance que nous avons acquise qui nous pousse à agir, poursuivre l'exemple du Sauveur, et en nous aidant de la prière, à suivre ses commandements, même dans les moments de sacrifice et d'épreuve. La foi nous donne le pouvoir du Seigneur, qui, entre autres choses, se manifeste par l'espérance en un avenir meilleur, par des miracles qui confirment la foi et par une protection divine aussi bien dans les choses spirituelles que temporelles. La vie d'Anne Rowley, pionnière qui vivait dans les premiers temps de l'Église, démontre l'impact positif de l'exercice de la foi sur notre vie. Cette veuve venue d'Angleterre a exercé sa foi en répondant à l'appel du prophète de se rassembler en Sion. Elle faisait partie du convoi de charrettes Abra Willy qui, à l'automne 1856, furent surpris en route par de grandes tempêtes de neige. À un certain moment de leur marche, ses 7 enfants mouraient littéralement de faim. Elle écrit « Cela me faisait mal de voir mes enfants affamés. La nuit arrivait et il n'y avait pas de nourriture pour le repas du soir. Comme toujours, j'ai demandé l'aide de Dieu. Je me suis agenouillé, me souvenant qu'il restait 2 biscuits secs de notre voyage en mer. Ils n'étaient pas gros et étaient si durs qu'on ne pouvait pas les casser. Il n'y en avait sûrement pas assez pour nourrir 8 personnes. Mais 5 pains et 2 poissons n'étaient pas non plus suffisants pour en nourrir 5 000. Pourtant, grâce à un miracle, Jésus l'a fait. Donc, avec l'aide de Dieu, rien n'est impossible. J'ai trouvé les biscuits et les ai couverts d'eau dans une cocotte, puis j'ai demandé à Dieu de les bénir. Ensuite, j'ai remis le couvercle et déposé la cocotte sur les braises. Un peu plus tard, quand j'ai retiré le couvercle, la cocotte était pleine de nourriture. Nous nous sommes agenouillés en famille et avons remercié Dieu de sa bonté. Cette nuit-là, ma famille a eu suffisamment à manger. Anne Rowley a dû faire de grands sacrifices personnels pour vivre l'Évangile. Et quand elle a eu besoin d'aide, elle l'a demandé en priant. Grâce à sa foi, elle a été remplie d'espérance et a miraculeusement reçu de la nourriture pour sa famille. Le Seigneur lui a aussi donné la capacité de persévérer avec foi jusqu'à la fin. Bénédiction d'une importance éternelle. En dépit d'un avenir incertain, elle n'a pas demandé à savoir comment elle allait nourrir ses enfants le lendemain. Au lieu de cela, elle a patiemment fait confiance au Seigneur et a avancé avec espérance, tout comme le dit ce beau cantique. Brillante étoile, étoile du matin, ô guide-moi. Quand tout est sombre et noir sur mon chemin, ô guide-moi. Pourquoi vouloir connaître l'avenir? quand chaque jour suffit pour t'obéir, nous pouvons nous aussi exercer une telle foi au Seigneur, croyant que notre Dieu, miséricordieux et immuable, nous bénira par son pouvoir miraculeux, selon notre situation, en son temps. Ce faisant, nous verrons aussi la main de Dieu se manifester dans notre vie. Le Seigneur nous commande de prendre le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés des méchants. Satan se servira du doute, de la peur ou du péché pour nous tenter d'abandonner notre foi et de perdre ainsi la protection qu'elle nous offre. Examinons chacun de ces défis de la foi pour pouvoir reconnaître les tentations de l'adversaire et éviter d'y succomber. Premièrement, ne pas croire au Seigneur ou à son évangile nous amènera à lutter contre l'Esprit de Dieu. Le remède contre le doute est simple. Comme l'a déclaré le roi Benjamin, « Croyez en Dieu, croyez qu'il est et qu'il a tout créé, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez qu'il a toute la sagesse et tout le pouvoir, tant dans le ciel que sur la terre. » Croyez que l'homme ne comprend pas tout ce que le Seigneur peut comprendre. Si votre foi chancelle à cause d'un doute ou d'une incrédulité, souvenez-vous que les premiers apôtres eux-mêmes ont imploré le Seigneur d'augmenter leur foi. En gardant à l'esprit que la foi et la raison sont des compagnons nécessaires, songez à l'analogie suivante. La foi et la raison sont comme les deux ailes d'un avion. Elles sont toutes deux essentielles pour le maintenir en vol. Si, de votre point de vue, la raison semble contredire la foi, prenez le temps de réfléchir et souvenez-vous que notre perspective est très limitée comparée à celle du Seigneur. Vous ne détacheriez pas une aile d'un avion en vol. De la même manière, ne rejetez pas la foi. Au contraire, nourrissons une particule de foi et permettons à l'espérance qu'elle produit d'être une ancre pour notre âme et pour notre raison. C'est pourquoi on nous commande de chercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Souvenez-vous que la foi précède et produit des miracles pour lesquels nous n'avons aucune explication immédiate selon notre expérience, comme de faire de deux petits biscuits une cocotte pleine de nourriture ou simplement de tout supporter avec foi contre toute attente. Deuxièmement, la peur nous détourne du Sauveur et sape notre foi en lui. Par une nuit d'orage, l'apôtre Pierre a regardé le Seigneur et a marché sur l'eau jusqu'à ce qu'il détourne son regard. Alors, voyant que le vent était fort, il eut peur. Alors il commença à s'enfoncer dans l'eau. Il aurait pu continuer à marcher sur l'eau s'il n'avait pas eu peur. Plutôt que de nous concentrer sur le vent et les vagues tumultueuses de notre vie et de les craindre, écoutons l'invitation que le Seigneur nous lance. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Troisièmement, le péché affaiblit la présence de l'Esprit dans notre vie, et sans le Saint-Esprit, nous perdrons la résistance spirituelle nécessaire pour continuer à faire preuve de foi. Il est préférable de faire preuve de foi pour ne pas toucher au mauvais don, ni à ce qui est impur, et pour être diligent à garder tous les commandements, de peur que des jugements ne s'abattent sur nous, que la foi ne nous manque et que nos ennemis ne triomphent de nous. Si le péché a taché votre vie, je vous invite à exercer une foi qui produit le repentir, et le Sauveur, par l'expiation, purifiera et guérira votre vie. Frères et sœurs, selon notre foi, le Seigneur tiendra ses promesses et œuvrera avec nous pour surmonter toute épreuve. Il l'a fait pour Anne Rollet, et il l'a aussi fait pour son peuple de chaque nation, à chaque époque et à chaque génération. Parce qu'il est un Dieu de miracles et qu'il ne varie pas, il bénira chacun de nous, selon notre foi en lui, nous accordant l'espérance, la protection et le pouvoir. Comme les câbles sur le chemin du Huayna Picchu, Une foi ferme au Seigneur Jésus-Christ vous ancrera, vous et vos êtres chers, au roc qu'est notre Rédempteur et à son pouvoir salvateur sans pareil. Le président Monson a déclaré « L'avenir est aussi brillant que votre foi. » Je témoigne que cette vérité sublime est pleine d'espérance. Et j'invite chacun de nous à aller de l'avant avec constance et en foi au Seigneur sans vaciller. Je sais que le Sauveur vit, qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Ceux d'entre nous qui sont entrés dans les eaux du baptême et ont reçu le don du Saint-Esprit ont fait alliance d'être prêts à prendre sur eux le nom de Jésus-Christ, ou en d'autres termes, nous déclarons que nous sommes disciples du Seigneur. Nous renouvelons cette alliance chaque semaine lorsque nous prenons la Sainte Cène et nous démontrons que nous sommes ses disciples par notre façon de vivre. Cela a été démontré de façon admirable lors des derniers événements qui se sont produits au Mexique. La collectivité des fruiticulteurs du nord du Mexique, qui avait eu droit à un beau printemps, les arbres fruitiers étaient entièrement fleuris et on s'attendait vraiment à une récolte abondante. On prenait déjà des dispositions pour rembourser des prêts, remplacer l'équipement dont on avait besoin et les vergers vieillissants, et pour tenir des engagements personnels tels que le paiement des frais de scolarité pour les membres de la famille. On projetait même des vacances familiales. Il y avait un sentiment général d'optimisme dans l'air. Puis un lundi après-midi, fin mars, une tempête de neige est arrivée et il a commencé à neiger. Il a neigé jusqu'à 3 heures du matin environ. Puis, lorsque les nuages se sont dissipés, la température a baissé brusquement. Toute la nuit et pendant le début de la matinée, tous les efforts ont été faits pour sauver au moins une partie de la récolte de fruits. Cela n'a servi à rien. Il a fait trop froid et la récolte a été totalement gelée. Aucun fruit ne serait cueilli et vendu cette année-là. La journée du mardi a commencé par la perte insupportable et démoralisante de tous ces projets, ces attentes et ces rêves merveilleux de la veille. J'ai reçu un email concernant ce terrible mardi matin de la part de la femme de John Ash, premier conseiller dans la présidence du temple de Colonia Juarez, Chihuahua. Je cite des extraits de ce message. John s'est levé à 6h30 pour aller au temple et voir si nous devions annuler la session ce matin-là. Il est revenu en disant que le parking et la rue étaient dégagés et nous avons donc décidé de la maintenir. Nous avons pensé que certains des travailleurs qui n'avaient pas de verger viendraient peut-être et que nous pourrions tous les mettre dans la session. C'était tellement impressionnant de voir les hommes arriver les uns après les autres. Ils étaient là, après une nuit blanche, pensant que leur récolte était perdue. Je les observais pendant notre réunion de préparation et ils avaient du mal à rester réveillés. Mais au lieu de penser qu'ils avaient une bonne raison de ne pas venir, ils étaient là. Il y avait 38 personnes dans la session, une session complète. Nous avons été édifiés ce matin-là et nous avons remercié notre Père Céleste pour ces braves gens qui remplissent leur devoir quoi qu'il arrive. J'ai ressenti un esprit spécial ce matin-là. Je suis sûr que notre Père Céleste était heureux de savoir que nous aimions sa maison et nous avons senti que c'était l'endroit où il fallait être en ce matin difficile. L'histoire ne s'arrête pas là. La plupart de ceux qui ont perdu leur récolte de fruits avaient des parcelles de terrain disponibles pour planter des cultures de remplacement pour la saison, telles que les piments ou les haricots. Ces cultures pouvaient fournir au moins un revenu suffisant pour survivre jusqu'à la cueillette de fruits de l'année suivante. Cependant, il y avait un brave frère avec 2 petits-enfants qui n'avaient pas de terrain supplémentaire et qui risquaient de passer une année sans aucun revenu. D'autres membres de la région, voyant la situation désespérée de ce frère et agissant de leur propre initiative à leurs frais, se sont arrangés pour lui fournir une parcelle de terrain. Ont utilisé de leur propre équipement pour préparer la terre et lui ont fourni des plants de piment. Je connais les hommes dont je viens de parler. Les connaissant, je ne suis pas de surpris de ce qu'ils ont fait. Mais ceux qui ne les connaissent pas poseront probablement deux questions qui commencent par le mot « pourquoi ». Pourquoi aller autant pour accomplir leur devoir et servir après être restés éveillés toute la nuit, et cela pour se rendre compte qu'ils avaient perdu la plus grande partie de leur revenu pour l'année tout entière, pour utiliser ce qui constituait maintenant des ressources rares et très précieuses, pour aider quelqu'un d'autre qui avait désespérément besoin d'aide alors qu'ils étaient eux-mêmes dans une situation financière critique. Si vous comprenez ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ, vous connaissez la réponse à ces deux questions. Lorsque nous contractons l'alliance d'être des disciples de Christ, nous entamons un processus de toute une vie. Et le chemin n'est pas toujours facile. En nous repentant de nos péchés, en nous efforçant de faire ce qu'il voudrait que nous fassions, et en servant nos semblables comme il le ferait, nous devenons inévitablement plus semblables à lui. Notre but ultime est de devenir semblable à lui et d'être un en lui. C'est la définition même du vrai disciple. Tout comme le Sauveur a demandé à ses disciples lors de sa visite sur le continent américain, c'est pourquoi, quelle sorte d'homme devriez-vous être? Puis en réponse à sa propre question, il a déclaré, en vérité, je vous le dis, tel que je suis. Devenir semblable au Sauveur n'est pas une tâche facile, en particulier dans le monde dans lequel nous vivons. Nous nous trouvons face à des obstacles et à l'adversité presque chaque jour de notre vie. Il y a une raison à cela, et c'est un des principaux objectifs de la condition mortelle. Comme nous pouvons le lire dans Abraham 3, 25, nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. Ces tests ou ces épreuves ont une nature et une intensité variables, mais personne ne quittera cette condition mortelle sans passer par là. La plupart du temps, la perte d'une récolte ou d'un emploi, la mort d'un être aimé, la maladie, le handicap physique, mental ou émotionnel, la pauvreté ou la perte d'amis est l'image que nous nous faisons d'une épreuve. Cependant, même la réalisation des objectifs qui paraissent en valoir la peine peut apporter son lot inutile de danger et d'orgueil, où nous aspirons plus aux honneurs des hommes qu'à l'approbation du ciel. Parmi ces dangers, nous trouvons la popularité mondaine, la reconnaissance publique, les prouesses physiques, les talents artistiques ou athlétiques, la prospérité ou la richesse. Concernant ces dernières épreuves, certains d'entre nous peuvent avoir des sentiments semblables à ceux exprimés par Tevi dans Un violon sur le toit. Si la richesse est une malédiction, que Dieu me frappe de cette malédiction et que je puisse ne jamais m'en remettre. C'est ce second type d'épreuve qui est plus intimidant, plus dangereux et plus difficile à surmonter que le premier. Nous devenons des disciples et nous en faisons la preuve par la manière dont nous supportons les épreuves et non en fonction du type d'épreuve que nous subissons. Comme nous l'a enseigné le président Herring, ainsi dans la grande épreuve de la vie, consiste à voir si nous prêtons l'oreille au commandement de Dieu et y obéissons au milieu des tempêtes de la vie. Il ne s'agit pas d'endurer les tempêtes, mais de choisir le bien lorsqu'elles font rage. Et la tragédie de la vie est d'échouer à cette épreuve et ainsi de ne pas nous qualifier pour retourner en gloire dans notre foyer céleste. Je suis fier d'être le grand prêtre de 23 petits-enfants. Ils ne cessent jamais de m'impressionner par leur compréhension des vérités éternelles, même dans leurs jeunes et tendres années. Tandis que je préparais ce discours, j'ai demandé à chacun d'eux de m'envoyer une très courte définition de ce qui signifie être un disciple de Jésus-Christ. J'ai reçu cette réponse de Benjamin, âgé de 8 ans. Être un disciple de Jésus-Christ signifie être un exemple. Cela signifie être un missionnaire et se préparer à en devenir un. Cela signifie servir les autres, lire les Écritures et prier, sanctifier le jour du sabbat, écouter les inspirations du Saint-Esprit, aller à l'église et au temple. Je suis d'accord avec Benjamin. Être un disciple, c'est une affaire d'action et de devenir. En obéissant à ses commandements et en servant nos semblables, nous devenons de meilleurs disciples de Jésus-Christ. L'obéissance et la soumission à sa volonté apportent la compagnie du Saint-Esprit, ainsi que la bénédiction d'avoir la paix, la joie et la sécurité qui accompagnent toujours ce troisième membre de la divinité. Elles ne peuvent pas venir autrement. En fin de compte, c'est la soumission totale à sa volonté qui nous aide à devenir semblables au Sauveur. À nouveau, notre but ultime est de devenir semblable à lui et d'être un en lui. C'est la définition même du vrai disciple. C'est ce qui a été mis en pratique. J'ai constaté que dans le temple de Colonia Roares et dans les champs alentours, lorsque des frères et sœurs dans la foi ont réaffirmé leur engagement envers Dieu et les uns envers les autres malgré une adversité déchirante. Je témoigne qu'en obéissant à ses commandements et en servant les autres et en soumettant notre volonté à la sienne, nous devenons effectivement ses vrais disciples. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
I grew up in Rexburg, Idaho.
J'ai grandi à Rexburg, Idaho, où une merveilleuse famille, des amis, des instructeurs et des dirigeants m'ont influencé et instruit. Nous avons tous des expériences spéciales qui nous touchent profondément et qui changent les choses pour toujours. Une expérience de ce genre s'est produite dans ma jeunesse. Elle a transformé ma vie. J'avais toujours été pratiquant et j'avais progressé dans les offices de la prêtrise d'Aaron. Lorsque j'étais adolescent, frère Jacobs, mon instructeur, nous a demandé d'écrire sur une carte ce à quoi nous avions pensé pendant la Sainte Cène. J'ai pris ma carte et j'ai commencé à écrire. Il y avait tout d'abord un match de basket que nous avions remporté la veille. Puis il y avait sorti en couple après le match, et ainsi de suite. Le nom de Jésus-Christ se trouvait beaucoup plus loin et certainement pas en caractère gras. La carte était remplie chaque dimanche. La Sainte Cène et la réunion de Sainte Cène prirent une signification nouvelle, plus grande et plus spirituelle pour le jeune détenteur de la prêtrise d'Aaron que j'étais. J'étais impatient que le dimanche arrive, avec l'occasion de prendre la Sainte Cène, tandis que la compréhension de l'expiation du Sauveur me transformait. Chaque dimanche, depuis lors, quand je prends la Sainte Cène, je peux voir ma carte et revoir ma liste. Il y a maintenant toujours sur ma liste, et en tout premier, le Sauveur de l'humanité. Dans le Nouveau Testament, nous lisons que le Sauveur et ses apôtres se réunirent dans une chambre haute pour la fête de la Pâque. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Jésus a aussi institué l'ordonnance de la Sainte Cène pendant sa visite aux Néphites. Je comprends maintenant l'importance de ces deux événements. Le président David O'Mackay a dit, « Je me sens poussé à mettre l'accent sur ce que le Seigneur a désigné comme la réunion la plus importante de l'Église. Il s'agit de la réunion de Sainte-Cène. Si nous nous préparons correctement pour la Sainte-Cène, elle peut transformer notre vie. Je vais suggérer 5 principes qui peuvent être une bénédiction dans notre vie quand nous prenons dignement la Sainte-Cène. Le premier principe consiste à éprouver de la gratitude pour l'expiation de son Fils. On raconte l'histoire suivante pour illustrer la distribution de la Sainte-Cène. La Sainte-Cène m'avait jamais beaucoup touché jusqu'au dimanche où j'ai été ordonné diacre. Cet après-midi-là, j'ai distribué la Sainte-Cène pour la première fois. Avant la réunion, un des diacres m'avait averti. « Fais attention à frère Schmitt, il faudra peut-être que tu le réveilles. » Ça ressemble à certains d'entre vous. Finalement, le moment où je devais distribuer la Sainte-Cène est arrivé. Je me suis bien débrouillé les 6 premiers rangs. Les enfants et les adultes ont pris le pain sans pensée ou problème visible. Puis je suis arrivé au 7e rang, celui où s'asseyait toujours frère Schmitt. Mais j'ai été étonné. Au lieu d'être endormi, il avait les yeux grands ouverts. À la différence de nombreuses autres personnes que j'avais servies, il a pris le pain avec ce qui m'a semblé être beaucoup de réflexion et de révérence. Quelques minutes plus tard, je m'approchais de nouveau du septième rang avec l'eau. Cette fois-ci, mon ami avait vu juste. Frère Schmidt était assis, la tête baissée, et ses grands yeux allemands étaient fermés. Il était manifestement profondément endormi. Que pouvais-je faire ou dire? J'ai observé un moment son front, ridé, fatigué, par des années de dur labeur et de difficultés. Il était devenu membre de l'Église pendant son adolescence, et il avait subi beaucoup de persécutions dans sa petite ville allemande. J'avais entendu l'histoire de nombreuses fois, pendant la réunion de jeunes et de témoignages. J'ai finalement décidé de lui toucher légèrement l'épaule, dans l'espoir de le réveiller. Tandis que je tendais le bras pour le faire, il a relevé lentement la tête. Des larmes lui coulaient sur les joues. Et j'ai vu dans son regard de l'amour et de la joie. Il a tendu le bras en silence et il a bu l'eau. Je n'avais alors que 12 ans, mais je me rappelle toujours comme si c'était hier ce que j'ai ressenti, tandis que j'observais ce vieil homme rude prendre la Sainte Seine. J'ai su sans aucun doute qu'il ressentait pour la Sainte Seine quelque chose que je n'avais jamais ressenti. J'ai décidé alors que je voulais ressentir la même chose. Frère Schmidt avait communiqué avec les cieux, et les cieux avaient communiqué avec lui. Le deuxième principe consiste à se souvenir que nous renouvelons les alliances du baptême. Les promesses que, selon les Écritures, nous faisons sont entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, porter les fardeaux les uns des autres, pleurer avec ceux qui pleurent, être les témoins de Dieu, se présente le cœur brisé, l'esprit contrit, disposé à prendre sur eux le nom de Jésus-Christ, étant déterminé à le servir jusqu'à la fin, à garder ses commandements et à se souvenir toujours de lui. Les prières de Sainte-Seine sont un rappel de ces alliances. Quand nous prenons la Sainte-Seine, nous renouvelons notre engagement de vivre conformément à ces alliances. Je crois qu'il serait approprié d'apprendre par cœur les prières de Sainte-Seine dans notre esprit et dans notre cœur. Cela nous aidera à nous concentrer sur le renouvellement de nos alliances du baptême. Que nous avions été baptisés, que nous avions 8 ans ou 80 ans, j'espère que nous n'oublierons jamais ce jour, ni les alliances que nous avons faites. Troisièmement, pendant la Sainte-Seine, nous pouvons sentir que nos péchés nous ont été pardonnés. Si nous avons passé du temps avant la réunion de Sainte-Seine à nous repentir de nos péchés, nous pouvons la quitter en nous sentant purs. Président Packer a dit, la Sainte-Seine renouvelle le processus du pardon. Tous les dimanches, la cérémonie de la distribution de la Sainte-Seine renouvelle le processus du pardon. Tous les dimanches, vous vous purifiez pour qu'au moment de votre décès, votre esprit soit pur. Le fait de prendre dignement la Sainte-Seine peut nous aider à éprouver ce qu'a ressenti le peuple du roi Benjamin qui fut rempli de joie, ayant reçu le pardon de ses péchés et ayant la conscience en paix. Quatrième principe est que nous pouvons recevoir l'inspiration pour des solutions à nos problèmes pendant la réunion de Sainte-Seine. Quand j'étais président de mission en Bolivie, Marianne et moi avons eu la bénédiction d'assister à un séminaire pour les présidents de mission avec le président Ehring. À cette réunion, il a enseigné qu'il y a trois façons importantes de se préparer à tirer profit d'une réunion. Nous devrions venir avec nos problèmes, humbles comme des enfants prêts à apprendre et avec le désir d'aider les enfants de Dieu. En allant humblement à la réunion de Sainte-Seine, nous pouvons avoir la bénédiction d'avoir des impressions concernant des solutions à nos problèmes quotidiens. Nous devons y aller préparés, disposés à écouter et à ne pas nous laisser distraire. Dans les Écritures, nous lisons « Mais voici, je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors tu dois me demander si c'est juste. Et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. Nous pouvons savoir ce que nous devons faire pour résoudre nos problèmes. » Le cinquième principe, prendre dignement la Sainte-Seine, nous aide à être remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'il a institué la Sainte-Seine pendant sa visite chez les Néphites, Jésus a déclaré, « Celui qui mange de ce pain mange de mon corps pour son âme, et celui qui boit de ce vin boit de mon sang pour son âme. Et son âme n'aura jamais faim, ni soif, mais sera rassasié. Il leur avait été promis que s'ils avaient faim et soif de justice, ils seraient remplis du Saint-Esprit. Les prières de Sainte-Cène promettent aussi que si nous vivons en accord avec nos alliances, nous aurons toujours son esprit avec nous. Elder Melvin J. Ballard a dit, « Je témoigne qu'un esprit particulier qui réchauffe toute notre âme participe à l'ordonnance de la Sainte-Cène. De la tête aux pieds, nous sentons que les blessures spirituelles sont en train de guérir et que notre fardeau est allégé. L'âme qui est digne et vraiment désireuse de prendre cette nourriture spirituelle reçoit de la consolation et éprouve du bonheur. » Lorsque nous prenons la Sainte-Cène chaque semaine, nous sommes bénis en éprouvant la gratitude pour l'expiation de Jésus-Christ, en renouvelant les alliances du baptême, en nous sentant pardonnés et en recevant l'inspiration du Saint-Esprit. Tandis que nous prenons la Sainte-Cène chaque semaine, la réunion de Sainte-Cène sera toujours formidable si la Sainte-Cène est le centre de notre culte. J'exprime ma reconnaissance pour l'expiation de Jésus-Christ. Je sais qu'il vit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mon message est centré sur la relation entre le fait de recevoir le témoignage que Jésus est le Christ et celui d'être converti à lui et à son évangile. On traite habituellement de manière séparée et distincte les sujets du témoignage et de la conversion. On acquiert cependant une perspective précieuse et une plus grande conviction spirituelle en réfléchissant à ces deux sujets importants en même temps. Je prie pour que le Saint-Esprit instruise et édifie chacun de nous. Le ministère de l'apôtre Pierre peut nous en apprendre beaucoup sur le témoignage et la conversion. Quand Jésus se rendit sur le territoire de Césarée de Philippe, il posa cette question pénétrante à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit franchement, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Comme le montre la réponse de Pierre et l'enseignement du Sauveur, le témoignage est la connaissance personnelle d'une vérité spirituelle obtenue par révélation. Le témoignage est un don de Dieu et est accessible à tous ses enfants. Quiconque cherche honnêtement la vérité peut obtenir un témoignage en exerçant le tout petit peu de foi en Jésus-Christ nécessaire pour faire l'expérience et essayer la vertu de la parole, pour se rendre aux persuasions du Saint-Esprit et pour s'éveiller à Dieu. Le témoignage confère une plus grande responsabilité personnelle, donne une raison d'être et est source d'assurance et de joie. Pour chercher et obtenir un témoignage de la vérité spirituelle, il faut demander, chercher et frapper, d'un cœur sincère, avec une intention réelle et la foi au Sauveur. Les éléments fondamentaux d'un témoignage sont la connaissance que notre Père Céleste vit et nous aime, que Jésus-Christ est notre Sauveur et que la plénitude de l'Évangile a été rétablie sur la terre dans les derniers jours. Lors de son enseignement à ses disciples pendant la Sainte-Cène, le Sauveur a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Il est intéressant de noter que ce grand apôtre a parlé et marché avec le Maître, a vu de nombreux miracles et avait un fort témoignage de la divinité du Sauveur. Pourtant, même Pierre avait besoin que Jésus lui donne davantage d'instructions sur le pouvoir de conversion et de sanctification du Saint-Esprit et sur sa responsabilité de servir fidèlement. L'essence de l'Évangile de Jésus-Christ implique un changement fondamental et permanent de notre nature profonde, rendu possible grâce à l'expiation du Sauveur. La véritable conversion apporte un changement dans les croyances, le cœur et la vie pour accepter et respecter la volonté de Dieu, et implique un engagement conscient à devenir un disciple du Christ. La conversion est un renforcement, un approfondissement et un élargissement des fondements du témoignage. Elle est le résultat de la révélation de Dieu, accompagnée du repentir, de l'obéissance et de la diligence. Quiconque cherche honnêtement la vérité peut être converti en connaissant un grand changement de cœur et en naissant spirituellement de Dieu, lorsque nous respectons les ordonnances et les alliances du salut et de l'exaltation, marchons résolument avec constance dans le Christ et persévérons dans la foi jusqu'à la fin, nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Frères et sœurs, la conversion est le don de nous-mêmes, d'amour et de loyauté que nous faisons à Dieu pour le remercier du don du témoignage. Le livre de Mormon est rempli de récits inspirants de conversion. Amaléki, descendant de Jacob, déclare « Je voudrais que vous veniez au Christ, qui est le Saint d'Israël, et preniez part à son salut et au pouvoir de sa rédemption. Oui, venez à lui et offrez-lui votre âme tout entière en offrande. » Il est important et nécessaire de savoir par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus est le Christ. Mais il faut beaucoup plus que simplement savoir pour aller sincèrement à lui et lui faire l'offrande de notre âme tout entière. La conversion exige tout notre cœur, tout notre pouvoir, tout notre esprit et toutes nos forces. Le peuple du roi Benjamin répondit à ses enseignements en s'exclamant « Oui, nous croyons toutes les paroles que tu nous as dites, et aussi nous savons qu'elles sont sûres et vraies, à cause de l'Esprit du Seigneur omnipotent, qui a changé, qui a produit un grand changement en nous, ou dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. » Le fait d'accepter les paroles prononcées, de recevoir le témoignage de leur véracité et d'exercer la foi au Christ, produit un grand changement de cœur et une détermination ferme à progresser et à devenir meilleur. Dans le livre des Lamans, les Lamanites convertis sont décrits comme étant dans le chemin de leur devoir. On dit aussi qu'ils marchent avec circonspection devant Dieu et s'appliquent à garder ses commandements et ses lois et ordonnances, et qu'ils s'efforcent avec une diligence inlassable d'amener le reste de leurs frères à la connaissance de la vérité. Comme le montrent ces exemples, les caractéristiques fondamentales de la conversion consistent à connaître un grand changement de cœur, à être disposé à faire continuellement le bien, à avancer dans le chemin du devoir, à marcher avec circonspection devant Dieu, à respecter les commandements et à servir avec une diligence inlassable. Il apparaît clairement que ces âmes fidèles étaient devenues profondément dévouées au Seigneur et à ses enseignements. La plupart du temps, la conversion est un processus continuel et non un événement ponctuel causé par une expérience puissante ou spectaculaire. Ligne après ligne, précepte sur précepte, progressivement et presque imperceptiblement, nos motivations, nos pensées, nos paroles et nos actions s'alignent sur la volonté de Dieu. La conversion au Seigneur exige à la fois de la persévérance et de la patience. Samuel le Lamanite donne 5 éléments fondamentaux pour être converti au Seigneur. Premièrement, croire aux enseignements et aux prophéties des saints prophètes tels qu'ils sont rapportés dans les Écritures. Deuxièmement, exercer la foi au Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, se repentir. Quatrièmement, connaître un grand changement de cœur. Et cinquièmement, être ferme et constant dans la foi. C'est là le processus qui conduit à la conversion. Le témoignage est le début et la condition préalable de la conversion continue. Le témoignage est le point de départ. Il n'est pas notre destination finale. Un témoignage fort est la fondation sur laquelle la conversion se construit. Le témoignage seul n'est pas et ne sera pas suffisant pour nous protéger dans la tempête de ténèbres et de mal au milieu de laquelle nous vivons ces derniers jours. Le témoignage est important et nécessaire, mais n'est pas suffisant pour fournir la force spirituelle et la protection dont nous avons besoin. des membres de l'Église ayant un témoignage ont faibli et ont chuté. Leur connaissance spirituelle et leur engagement n'étaient pas à la hauteur des difficultés qu'ils ont rencontrées. On trouve une leçon importante sur la relation entre le témoignage et la conversion dans les efforts missionnaires des fils de Mosiah. Tous ceux qui furent amenés à la connaissance de la vérité par la prédication d'Amon et de ses frères, selon l'esprit de révélation et de prophétie, et le pouvoir de Dieu accomplissant des miracles en eux, oui, comme le Seigneur vit, tous ceux des Lamanites qui crurent en la prédication et furent convertis au Seigneur n'apostasièrent jamais. Car ils devinrent un peuple juste. Ils déposèrent leurs armes, les armes de leur rébellion, de sorte qu'ils ne combattirent plus Dieu. Or, voici ceux qui furent convertis au Seigneur. Deux éléments fondamentaux sont décrits dans ces versets. Premièrement, la connaissance de la vérité, qui peut être interprétée comme étant le témoignage. Et deuxièmement, convertis au Seigneur, ce qui, pour moi, est la conversion au Sauveur et à son Évangile. Ainsi, l'association puissante du témoignage et de la conversion au Seigneur produit la fermeté et la constance et fournit une protection spirituelle. Ils n'apostasièrent jamais et déposèrent les armes de leur rébellion de sorte qu'ils ne combattirent plus Dieu. Il faut plus que simplement croire et savoir pour mettre de côté les armes de la rébellion auxquelles on est attaché, comme l'égoïsme, l'orgueil et la désobéissance. La conviction, l'humilité, le repentir et la soumission précèdent l'abandon des armes de notre rébellion. Est-ce que vous et moi avons encore en notre possession des armes de rébellion qui nous empêchent d'être convertis au Seigneur? Si c'est le cas, nous devons nous repentir, maintenant. Remarquez que les Lamanites n'étaient pas convertis aux missionnaires qui les avaient instruits ou aux excellents programmes de l'Église. Ils n'étaient pas convertis aux personnalités des dirigeants ou à la préservation d'un patrimoine culturel ou des traditions de leur père. Ils étaient convertis au Seigneur, à lui en tant que sauveur et à sa divinité et à sa doctrine, et ils n'apostasièrent jamais. Le témoignage est la connaissance spirituelle de la vérité obtenue par le pouvoir du Saint-Esprit. La conversion continue est le dévouement continuel à la vérité révélée que nous avons reçue d'un cœur bien disposé et pour des raisons justes. L'élément essentiel du témoignage est la connaissance que l'Évangile est vrai. L'élément essentiel de la conversion est la fidélité constante à l'Évangile. Nous devons savoir que l'Évangile est vrai et être fidèles à l'Évangile. Je vais maintenant utiliser une des nombreuses interprétations de la parabole des 10 vierges pour montrer la relation entre le témoignage et la conversion. 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 étaient folles, prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Considérez que la lampe utilisée par les vierges est celle du témoignage. Les vierges folles prirent leur lampe du témoignage, mais ne prirent pas d'huile avec elles. Considérez que l'huile est celle de la conversion. Mais les sages prirent avec leur lampe du témoignage de l'huile de la conversion dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe du témoignage. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, l'huile de la conversion, car nos lampes du témoignage sont faibles et s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Les 5 vierges sages étaient-elles égoïstes et peu disposées à partager, ou faisaient-elles savoir à juste titre que l'huile de la conversion ne peut pas s'emprunter? La force spirituelle qui provient de l'obéissance constante au commandement peut-elle être donnée à une autre personne? La connaissance obtenue par l'étude diligente et la méditation des Écritures peut-elle être transmise à quelqu'un qui en a besoin? La paix que l'Évangile apporte à un saint des derniers jours fidèle peut-elle être transférée à une personne connaissant l'adversité ou de gros problèmes? La réponse claire à chacune de ces questions est non. Comme les vierges sages l'ont bien souligné, chacun de nous doit acheter pour soi. Ces femmes inspirées ne parlaient pas de transactions commerciales. En fait, elles insistaient sur notre responsabilité individuelle de garder allumée notre lampe du témoignage et d'obtenir une réserve suffisante d'huile de conversion. On se procure cette huile précieuse goutte à goutte, ligne sur ligne et précepte sur précepte, patiemment et avec persévérance. Il n'y a pas de raccourci possible. La préparation dans l'agitation de dernière minute est impossible. C'est pourquoi, soyez fidèles, priant toujours, tenant votre lampe prête et allumée, et ayant de l'huile avec vous, afin d'être prêt au moment de la venue de l'époux. Je vous promets qu'en obtenant la connaissance de la vérité et en étant convertis au Seigneur, nous resterons fermes et constants et nous n'apostasierons jamais. Nous nous empresserons de mettre de côté les armes de notre rébellion. Nous bénéficierons d'une lumière éclatante venant de notre lampe du témoignage et d'une réserve abondante d'huile de conversion. Et lorsque chacun de nous sera plus complètement converti, il fortifiera sa famille et son entourage. Je témoigne de ces vérités au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
At the conclusion of the conference, we express... À la fin de la conférence, nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont travaillé diligemment à la préparation de ces sessions. Nous remercions les orateurs et les personnes qui ont interprété la musique édifiante. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson, président de l'Église. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Dieu soit avec toi jusqu'au revoir ». Ensuite, Larry W. Gibbons, qui a été relevé hier comme membre des 70, fera la prière de clôture. La conférence sera alors ajournée.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin d'une conférence générale inspirante de plus. J'ai personnellement été nourri et édifié spirituellement. Et je sais que vous aussi avez ressenti l'esprit spécial de cette conférence. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui y ont participé d'une manière ou d'une autre. Les vérités de l'Évangile ont été merveilleusement enseignées et soulignées. Si nous laissons les messages de ces deux derniers jours pénétrer dans notre cœur et dans notre vie, nous serons bénis. Comme toujours, le contenu de cette conférence sera publié dans les prochains numéros de l'Ensign et du Liaona. Je vous recommande de relire les discours et de méditer sur les messages qu'ils contiennent. J'ai découvert dans ma vie qu'il y a davantage à gagner de ces sermons inspirés quand je les étudie plus en profondeur. Cette conférence a eu une diffusion sans précédent, touchant des personnes du monde entier, par-delà les continents et les océans. Bien que nous soyons très éloignés de beaucoup d'entre vous, nous ressentons votre esprit et nous vous exprimons notre amour et notre reconnaissance. À nos frères qui ont été relevés lors de cette conférence, j'exprime au nom de tous notre profonde reconnaissance pour leurs nombreuses années de service dévoué. On ne peut compter le nombre de personnes qui ont été bénies par leur contribution à l'œuvre du Seigneur. Frères et sœurs, j'ai fêté récemment mon 85e anniversaire et je suis reconnaissant de chaque année de vie que le Seigneur m'a donnée. En songeant aux expériences de ma vie, je le remercie de ses nombreuses bénédictions. Comme je l'ai dit dans mon message de ce matin, en essayant sincèrement de le servir, lui et vous tous, j'ai senti sa main diriger mes efforts. L'office de président de l'Église est exigeant. Comme je suis reconnaissant à mes deux fidèles conseillers qui servent à mes côtés et qui sont toujours volontaires et exceptionnellement capables pour aider dans le travail qui incombe à la première présidence. J'exprime aussi ma reconnaissance pour les hommes nobles qui constituent le collège des 12 apôtres. Ils œuvrent sans relâche à la cause du Maître, ainsi que les membres des collèges des 70 qui leur apportent une aide inspirée. J'aimerais aussi vous remercier, mes frères et sœurs, où que vous soyez dans le monde, pour tout ce que vous faites dans vos paroisses et vos branches, ainsi que dans vos pieux et vos districts. En remplissant avec bonne volonté les appels qui vous sont demandés, vous contribuez à édifier le royaume de Dieu ici-bas, sur la terre. Puissions-nous toujours veiller les uns sur les autres et nous aider dans les moments difficiles. Ne critiquons pas, ne jugeons pas, mais soyons tolérants, cherchant toujours à imiter l'exemple de bonté aimante du Sauveur. De la même manière, puissions-nous nous servir de bon gré les uns les autres. Puissions-nous prier pour recevoir l'inspiration afin de connaître les besoins de notre prochain et ensuite, puissions-nous aller l'aider. Prenons courage dans notre vie de tous les jours. Bien que nous vivions dans des temps de plus en plus périlleux, le Seigneur nous aime et se soucie de nous. Il est toujours de notre côté quand nous faisons le bien. Il nous aidera dans les moments difficiles. Des difficultés surgissent dans notre vie, des problèmes imprévus et que nous aurions aimé éviter. Aucun de nous n'est à l'abri. Le but de la mortalité est d'apprendre et de progresser pour devenir plus semblable à notre Père. Et c'est souvent dans les moments difficiles que nous apprenons le plus, aussi douloureuses que soient les leçons. Notre vie peut aussi être remplie de joie si nous mettons en pratique les enseignements de l'Évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a adressé cette exhortation. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Fin de citation. Quel grand bonheur cette connaissance devrait nous procurer. Il a vécu pour nous et est mort pour nous. Il a payé le prix de nos péchés. Puissions-nous suivre son exemple. Puissions-nous lui montrer notre grande gratitude en acceptant son sacrifice et en vivant de manière à nous qualifier pour retourner un jour vivre avec lui. Comme je l'ai dit lors de précédentes conférences, je vous remercie de vos prières en ma faveur. J'en ai besoin. Je les sens. Nous, les autorités générales, nous nous souvenons aussi de vous tous et nous prions pour que vous receviez les plus grandes bénédictions de notre Père Céleste. À présent, mes frères et sœurs bien-aimés, notre prochaine conférence aura lieu dans 6 mois. Puisse Dieu être avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions à ce moment-là. Au nom de notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Our dear Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants pour cette conférence générale magnifique, pour les vérités qui nous ont été enseignées, pour la musique merveilleuse, pour les sentiments de nos cœurs et la joie que nous avons ressentie. Nous sommes reconnaissants pour le rétablissement de ton évangile et pour le rétablissement de ton Église et de ton prophète, le président Monson. Et nous prions que tu continues à le bénir, à le fortifier, ainsi que ses conseillers, le collège des 12, et que tu sois avec eux. Nous sommes reconnaissants de savoir que tu es notre Père et que tu répondras à nos prières. Et nous sommes reconnaissants pour ton Fils, pour son amour pour nous et son sacrifice pour nous. Aide-nous à le suivre, à nous souvenir de lui. Aide-nous à nous souvenir de cette conférence. C'est notre prière, humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd.
Vous venez d'assister à une session de la 182e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.